Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est Jacques pour la suite et l'épilogue du concours de critique théâtrale de la scène nationale d'Albi-Tarn auquel ont participé des collégiens des établissements Bellevue et Balzac d'Albi ainsi que du lycée Victor Hugo de Gaillac. Un concours de critique théâtrale mis en place par la scène nationale d'Albi-Tarn en partenariat avec des établissements du secondaire pour des projets culturels, artistiques et tout au long de l'année scolaire. Ces élèves ont travaillé en cours de français sur des ouvrages dont ils ont pu non seulement voir une adaptation théâtrale sur le plateau du Grand Théâtre, mais aussi étudier le livre en classe. Et moi, en tant qu'homme de radio, journaliste, je suis intervenu dans leur salle de classe pour aborder la notion de critique culturelle, tout comme M. Cédric Lépine, qui lui est journaliste culturel pour le compte de Mediapart notamment. Et par la suite, les élèves, que ce soit de manière individuelle ou alors en groupe, ils ont proposé des critiques personnelles de la pièce adaptée qu'ils ont pu voir au Grand Théâtre d'Albi, adaptée par rapport au roman qu'ils ont lu en classe. Il s'agissait des œuvres L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva et de Un mois à la campagne d'Ivan Tourguéniev. Et dans cette émission aujourd'hui, qui a été enregistrée dans la salle haute de la scène nationale Albi-Tarn, en présence des professeurs bien sûr, des élèves évidemment, et de quelques parents accompagnateurs, nous découvrirons les lauréats de chaque catégorie, que ce soit le prix des élèves eux-mêmes, le prix du jury aussi, ainsi que des prix un peu spéciaux. Mais avant cela, Céline Bail de la scène nationale d'Albi-Tarn nous rappelle les objectifs de ce projet culturel et pédagogique et comment faire pour y participer si on est professeur dans le secondaire par exemple.
Nous, l'idée, elle est toujours de pas forcément que les élèves s'assoient devant un spectacle et soient juste, entre guillemets, des consommateurs, mais soient aussi un peu acteurs de ce rôle de spectateur. Et on mène beaucoup de projets. Et celui-là était de se dire que, voilà, quand on est devant un spectacle, et ben se mettre dans la peau d'un critique et soit de formuler son opinion, soit aussi un critique, c'est celui qui donne envie d'aller voir un spectacle ou au contraire donne l'idée de rester chez soi si ça nous a pas plu. Mais en tout cas, c'était de les mettre dans cette position là et d'apprécier autrement, de façon un peu décalée, le spectacle qu'ils auront vu.
Bon, alors est-ce qu'on peut découvrir parmi toutes les critiques qui ont été proposées, celles qui ont retenu à la fois les attentions des membres du jury, les attentions aussi des élèves qui ont eux-mêmes voté aussi pour l'un ou l'autre de leurs camarades?
Alors, je vais faire cette annonce presque toute seule, avec Cédric aussi, mais pas avec Jeanne et Thelma qui ont travaillé avec moi là-dessus, mais parce qu'elles sont en train d'imprimer d'autres petits diplômes, parce qu'en fait, on a été un peu gourmand, on a peut-être donné un peu plus de prix que ce qui était décidé. Voilà, donc elles sont en train de faire marcher l'imprimante. En tout cas, juste pour rappel, donc il y avait des prix décernés aux deux classes de collège qui ont vu L'Enfant Océan et trois prix qui étaient décernés aux lycéens pour Un mois à la campagne. Donc pour L'Enfant Océan, donc il y a un prix des élèves qui a été décerné par les lycéens et qui a été décerné, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, à Kéliane.
Mais Kéliane, tu peux venir. Vas-y, viens, rejoins-nous. Installe-toi, s'il te plaît, Kéliane.
Et ensuite, donc, il y avait un prix du jury, et là, on n'a pas réussi à se décider, donc on en a donné deux. Un à Syriane et un à Liam.
Syriane, c'est Syriane Taris, oui, ouais. Et Liam.
Alors, j'enchaîne avec les prix des lycéens et lycéennes. Donc, globalement, je tiens aussi à mettre en lumière le plaisir à découvrir non seulement un regard, mais aussi une découverte, vraiment une exploration de la forme. Vous êtes vraiment approprié dans l'histoire de l'expression, que ce soit au niveau graphique, du dessin, de l'image. et comment vous avez pu jouer avec tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et là, concrètement, d'être sur place, découvrir cette expérience de critique en touchant ces œuvres, là, on se rend compte que la critique appartient à chacun et chacune d'entre vous. Vous avez su vous l'approprier, ça, c'est vraiment aussi fascinant. Donc, merci aussi pour ce plaisir que vous nous avez offert de partager aussi votre regard, votre sensibilité. C'était une très belle expérience aussi pour nous en tant que membres du jury. Voilà pour l'ensemble. Là, maintenant, je vais énoncer les différents prix. Donc, le prix des élèves qui est attribué à la critique d'Eva et Méline.
Eva et Méline, si vous voulez bien nous rejoindre. Oui, comme je le disais, il y a eu des critiques qui ont été faites en binôme. Hein. Certains élèves ont choisi de travailler ensemble pour se motiver et proposer quelque chose à la fois intéressant et puis original aussi bien des fois. Donc Eva et Méline, merci d'être là. On donnera la parole aux élèves pour un petit mot par la suite. Il y a encore d'autres prix, Cédric ?
Oui, parce qu'on est dans l'ambiance des binômes et de l'originalité. On a attribué, nous, le prix de l'originalité à Paul et Théo pour leur vidéo.
Oui, il y en a un qui est passé chez le coiffeur entre-temps, je crois, hein, entre Paul et Théo, là, entre ce qu'on a vu sur leur vidéo. C'était l'une des rares, et d'ailleurs, ça a été surprenant. Je ne sais pas si c'était imposé par les professeurs dès le départ, ou en tout cas plutôt influencé au départ en disant, surtout au papier, mais j'ai été surpris de voir qu'il n'y ait qu'une seule vidéo, même si elle était super bien faite, hein, par ces deux messieurs qui sont bien pris la tête. On a compris ce que vous avez fait de certains de vos week-ends, hein, parce qu'il a fallu faire un montage autour de ces vidéos-là. Bon, le problème à la radio, c'est qu'on pas l'image, mais on aura le son, on entendra ce que vous avez proposé, parce que au-delà de la forme, le fond aussi est primé, hein, même si c'est un prix sur l'originalité, le fond était quand même intéressant. En tout cas, bravo Paul et Théo, vous venez de nous rejoindre, Cédric, pour poursuivre.
Oui, ensuite on a le prix du jury attribué à Nolan Pierre-Antoine.
Ne sois pas surpris, Nolan, viens. Vas-y, viens. Bon, ben voilà, il y en a encore un. Ah ben c'est vrai qu'elle disait, Céline, hein, qu'il a fallu récompenser plusieurs personnes parce que les boules, ça a été difficile aussi, hein, de départager certaines catégories.
Oui, encore une fois, pour mettre aussi en valeur la diversité, l'expression, la forme de ce mot, de dire je, comment je m'exprime, comment j'entre dans un univers et inviter le lecteur à entrer dans cet univers critique, on a tenu à donner une mention spéciale à Camille.
Camille Gallès, du lycée Victor Hugo de Gaillac. Et d'ailleurs, c'était l'une des rares critiques entièrement négatives, il me semble, ouais. Celle de Camille. Ah ben oui, ils vont lire un petit bout, on leur a fait déjà écrire, et là ils vont lire un petit bout quand même de ce qu'ils nous ont proposé, mais aussi nous donner un peu leurs impressions. Ben, je vais commencer par Paul et Théo qui sont là, si vous voulez bien vous rapprocher un peu du micro. Il va falloir se partager les micros, les chers amis. Il y en a peut-être qui peuvent venir par ici. Camille, tu peux venir par ici pour pouvoir nous dire un petit mot tout à l'heure là. Mais on va commencer déjà par Paul et Théo, donc les seuls qui ont fait une vidéo, voilà, pour cette critique théâtrale, avec une mise en scène, on va dire, assez particulière. Vous n'étiez pas tout à fait ensemble, ou même pas du tout, presque. Si vous étiez ensemble, d'accord, ouais, pardon. Vas-y, avancez-vous un tout petit peu pour parler. Voilà, racontez-nous déjà comment vous est venue l'idée de faire cette, plutôt en format vidéo, parce que déjà vous êtes les seuls à avoir fait ça, et si c'était compliqué ou pas finalement de le faire.
Quand notre prof de français nous a dit qu'on pouvait faire une vidéo, je suis tout de suite allé voir Théo pour lui proposer l'idée. Il a tout de suite été d'accord.
C'est le plus photogénique de la classe ou quoi? Non, c'est parce que c'est ton pote.
Ouais, voilà. Voilà,
d'accord, ok.
Et du coup, pendant les vacances, on a écrit le script, le scénario. On s'est vu à la maison, on s'est mis dans le jardin avec des fauteuils et on s'est dit on va le faire sous la forme d'une interview. Et Théo faisait le journaliste, je faisais l'invité. Et on a tourné ça l'après-midi à la maison pour faire notre petit film. Puis après, on a fait le montage ensemble.
D'accord. Mais ça vous a pris quand même du temps, finalement.
Ouais, on a fait ça pendant une bonne après-midi pour filmer, quelques jours pour écrire le script et quelques temps aussi pour faire le montage parce qu'on n'était pas ensemble pour faire le montage, du coup on s'envoyait des messages, on s'appelait,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
On l'a fait pendant les vacances, du coup on avait le temps pendant les vacances de le faire.
Eh bien dis donc, pendant les vacances, il y en a qui sont motivés. Hein. Alors là, moi j'ai dit doublement bravo, bravo, bravo. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous retenez de cette aventure de manière générale entre le travail qui était fait en classe, le spectacle, et puis vous voir ensuite pour écrire le script où il a fallu partager vos impressions sur le spectacle?
C'était pas un travail, enfin c'était original, c'était pas écrire simple sur un papier. Du coup, j'ai trouvé ce concept bien.
On va poursuivre là les avis des uns et des autres. Ben, Camille Gallès, elle est juste à côté de moi. Je disais que c'était l'une des rares critiques entièrement négatives ou plus ou moins entièrement négatives. Donc, c'est le spectacle, moi, à la campagne, hein, que toi, tu es venu voir avec ta classe de seconde. On l'a ici sous les yeux. Donc, on voit une autre personne qui a pris un peu le temps pour faire sa critique parce qu'il n'a pas s'agi uniquement d'écrire son avis sur une feuille de papier, ce qui est déjà énorme. Je ne dis pas que c'est facile de donner son avis, mais là il y a un travail à la fois artistique, de collage, d'écriture aussi, de couleurs, etc. pour nous dire que finalement c'était 2h30 à compter les moutons.
je sais pas trop quoi dire. Sans mentir, au début je voulais pas me prendre la tête. Donc j'ai pas voulu faire de vidéo ou d'audio parce que en plus ça prend plus de temps et c'est difficile à faire seul. Et du coup j'ai décidé de faire quelque chose papier, mais c'est ma professeure qui m'avait dit de faire quelque chose d'un peu plus original quand même, et du coup au final je me suis décidée à faire une affiche plutôt que de juste rendre ma feuille de papier.
On le voit, c'est travaillé, parce qu'il y a des dessins, il y a des petites flèches aussi pour accompagner le regard du lecteur, hein, au travers des différentes bulles finalement que tu as proposées comme ça d'une manière très artistique. On voit les moutons tout de suite, et c'est vrai que oui, on comprend presque dès le début qui est anguille sous roche. Mais en tout cas, la critique ne veut pas dire qu'elle doit être forcément positive, hein. Vous le comprenez là, pour le jury de récompenser ce travail, c'est aussi parce qu'une critique négative aide certaines personnes, ben, peut-être à ne pas aller voir un spectacle pour lequel ils auraient soit perdu leur temps, soit perdu leur sous. Donc en tout cas, c'est l'avis de Camille qui n'a pas forcément apprécié un mois à la campagne. En tout cas, elle a trouvé que c'était 2h30, c'était un peu trop pour elle, quoi. Une heure, ça aurait peut-être suffi d'une certaine manière. On va poursuivre. C'est Nora ? Cyriane, pardon, excuse-moi. Cyriane. Bonjour Cyriane, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Surprise de que ta critique soit retenue. Oui, je t'ai senti vraiment surprise au moment où on a appelé ton nom. Surprise parce que toi tu te disais que non, c'est...
Non, je me disais non quoi. Je me disais que j'avais pas passé en fait. Que j'allais pas être voilà.
Ton rapport avec le spectacle, parce que là dans ta critique il y avait un côté très à la fois personnel et impersonnel où tu donnais vraiment à un avis pour permettre aux gens eux-mêmes de se faire une idée. Donc moi, en lisant ta critique, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller voir des spectacles. Est-ce que je me suis trompé ou c'était une superbe inspiration un après-midi ou un soir qui est venu au moment où tu as écrit ça?
Alors, pas totalement parce que j'ai déjà fait des spectacles moi-même. Mmh. Et non, je suis pas allée voir des spectacles tant que ça. Et c'est la première fois que je fais une critique... de spectacle comme ça en fait.
Est-ce que tu peux nous lire un peu le dernier paragraphe de ta critique s'il te plaît?
Il y a là une certaine forme de fantaisie car on comprend dès le début que les choses vont mal tourner et que tout ne se passera pas bien, mais l'issue de l'histoire pour le personnage principal donne un espoir et l'envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves.
CFM. CFM Radio. CFM Radio.
Émission spéciale sur CFM Radio, enregistrée dans la salle haute de la scène nationale d'Albitarne pour l'épilogue du concours de critique théâtrale organisé par la scène nationale d'Albitarne et des établissements du secondaire Tarnais, les collèges Bellevue et Balzac d'Albi, ainsi que le lycée Victor Hugo de Gaillac. Et après Cyriane qui nous a lu une toute petite partie de sa critique, voici venu maintenant Monsieur Kélian qui va nous dire ce qu'il retient de cette aventure qui mêle à la fois lecture d'une œuvre et travail en cours de français en salle de classe, mais aussi un spectacle qu'ils sont allés voir au Grand Théâtre de la scène nationale d'Albitarne.
Bah, moi, je trouve que c'était une belle histoire. Mm-hmm. Et après, c'était bien à voir. Et après, J'écris la critique, je ne m'attendais pas.
Ouais. Bah, tu vas nous lire aussi un peu par la suite. Hein. Bon, même si on a eu un petit bout de la critique de Cyriane, par la suite, on va enregistrer tout le monde. Voilà, comme ça, on pourra diffuser tout à la radio. Mais on fera ça après avoir écouté. C'est Eve et Méline. Eve et Mélina.
Dédicace
Eva, aux jazz. Eva et Méline. C'est que... Ah, il y a une dédicace qui est passée en sourdine. C'est quoi la dédicace?
C'est dédicace aux os.
Aux os. D'accord. Mais je crois que les os te répondent là-bas. Tu peux passer le micro. Tu peux passer le micro. Merci. Eve, c'est Eva et Méline. Donc vous avez choisi comme Paul et Théo de travailler en binôme. Vous nous expliquez ce que vous avez fait. C'était pas une vidéo pour le coup.
Non, c'était sous une forme de livret. Mmh. Alors, comme disait Madame Nassar, c'est vrai que notre avis a évolué par rapport à la pièce de théâtre. Lorsqu'on est allé la voir, on a trouvé ça très ennuyeux et très long. Et au fur et à mesure, notre avis a évolué.
Évolué, oui. Mmh.
Et c'est plutôt positif au final. Et c'est vrai que Méline était plus impliquée au niveau créatif et moi j'ai fait plus l'écrit. Et
c'est toi qui as écrit ?
Non, on a écrit un peu toutes les deux.
D'accord, ouais. Et Méline, l'idée de...
Sur le livre en tout cas, c'est son écriture.
D'accord.
C'est ça que vous vouliez dire.
Oui. L'idée du livret, c'est venu rapidement, Méline ? Parce que c'est un livret quand même original entre la... La facture du papier, la couverture et tout
ça, c'est pas courant. Ça a pris du temps.
Ouais.
C'est vrai que j'aime beaucoup tous les livres manuscrits, les vieux livres anciens, avec des couvertures épaisses et tout ça, avec des motifs en or. Donc directement, j'avais eu cette idée-là, ça m'est venu presque automatiquement.
D'accord. Moi, c'est évident. C'est Madame Nasser qui vous pousse comme ça à aller sur la créativité, parce qu'aller proposer un livre comme ça avec un papier particulier, une couverture particulière, ça veut dire que vous voulez aussi, on le sait tous, on est passé par là, il y a une manière aussi de remercier l'enseignant par rapport au boulot qui a été fait. Je suis sûr que si c'était d'autres anciens, vous n'auriez pas forcément fait ça comme ça.
Après, c'est aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est l'art, donc
ouais.
C'est vrai que c'est peut-être relié, oui, mais moi j'aime beaucoup dessiner tout ça, donc évidemment que... J'allais m'y mettre à fond.
À fond, ouais. Vas-y.
Mais c'est vrai qu'à la base, notre critique, elle était juste écrite sur une feuille. Et c'est Madame Nassar qui a dit à tout le monde de rajouter un côté un petit peu plus original pour se démarquer les uns les autres.
En tout cas, vous avez réussi à vous démarquer parce que ça a retenu l'attention des membres du jury, qu'ils soient, on va dire, professionnels ou vos camarades qui ont plébiscité le travail que vous avez fait. On va terminer ce tour de table avec le monsieur qui recoiffe sa mèche. Salut, approche-toi du micro, je ne me rappelle plus de ton nom.
Nolan.
Nolan, bonjour Nolan.
Bonjour.
Bon, comme tout le monde, surpris d'être là.
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de tout cela, entre bouquins, spectacles, bus, écrire, devoir à rendre?
Beaucoup de choses.
Vas-y, on t'écoute.
Mais déjà, le théâtre, c'est vrai que j'y vais rarement, donc c'était une des premières fois. C'est vrai que, un peu comme tout le monde, j'ai trouvé la pièce un peu longue. Surtout que la veille, j'étais fatigué, j'ai pas pu me concentrer entièrement. Mais après, sur une fois tête posée, on a pu. J'ai réalisé que c'était vraiment une bonne pièce.
D'accord. Et tu reviendras, toi, au Grand Théâtre, voir des pièces peut-être un peu moins longues,
oui,
pour le coup?
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Donc, je crois que d'ailleurs, ça. Ça vaut pour tout le monde. Je pense que vous allez maintenant faire très attention à la durée d'un spectacle avant d'aller le voir, pas vrai?
Hein? Oui.
Maintenant, vous allez faire un peu plus attention à ça. En tout cas, encore bravo à chacun de vous. Et on va profiter du fait que vous soyez tous là, réunis ici autour de la table, pour que vous puissiez bénéficier, on va dire, des applaudissements de vos camarades qui sont ici présents, qui vont vous féliciter. Merci beaucoup. Là, on va passer à la phase d'enregistrement de vos chroniques, de vos critiques, pardon. Donc, on va laisser un micro à chacun, et puis on pourra entendre les critiques des uns et des autres. Ce que je vais vous demander, écoutez bien, à chaque fois que vous allez commencer à lire votre critique, vous dites votre nom, prénom, la classe, l'établissement dans lequel vous êtes. D'accord. Et lorsque vous êtes à deux, vous partagez le boulot. Bon, eux, c'est rigolo, ils ont fait une vidéo. Eh bien, on va leur demander de nous la refaire de mémoire. D'accord. Mais ils vont passer en dernier. Ils vont passer en dernier. Vous inquiétez pas, ils ont le temps de se préparer. On va démarrer avec Camille qui est ici, qui va commencer par nous lire sa critique.
Galès Camille, au lycée Victor Hugo, en classe de seconde 203. Le jeudi 9 février, nous, les classes de 203 et 214 du lycée Victor Hugo de Gaillac, sommes allés voir une représentation de « Un mois à la campagne » de Tourgueniev, montée par Clément Hervieux-Léger à la scène nationale d'Albi. Clément Hervieux-Léger est un sociétaire de la comédie française depuis 2018. Il est à la fois comédien et metteur en scène et a déjà monté des pièces de théâtre et des opéras. Tourgueniev, quant à lui, est un écrivain russe du 19e siècle qui précède Tchekhov. Un mois à la campagne est l'histoire de l'implosion d'une petite société d'aristocrates russes suite à l'arrivée d'un nouveau précepteur, Alexei. En effet, Natalia, la maîtresse de maison, est séduite par sa jeunesse et sa liberté. Elle qui se sent enfermée dans son quotidien. Le problème, c'est que Vera, sa pupille, tombe aussi amoureuse de lui, ce qui entraîne une rivalité et de grandes tensions qui finissent par exploser et bouleverser l'ancien équilibre. Celles-ci sont manifestées par l'orage qui fait transition entre les actes 3 et 4. Cette pièce aborde les thèmes de l'ennui, du passage du temps, mais aussi de la quête de liberté, notamment de la part de Natalia. Selon moi, ces thèmes sont exprimés par la mise en scène et surtout grâce aux lumières. J'ai trouvé l'éclairage assez particulier car très minimaliste. Les lumières ne varient pas. Lors des actes, elles restent pareilles, statiques, chaudes et tamisées. Les quelques variations sont subtiles. Par exemple, elles sont légèrement plus vives lors de l'acte 2, pour l'extérieur, ou alors lors de l'acte 4 qui se passe dans un vestibule. Ces lumières très plates et monotones, offrant peu de stimulation visuelle, mettent en avant la chaleur de l'été et de la lenteur du temps qui passe. Concernant la recherche de liberté, elle est peut-être manifestée par les déplacements des personnages, surtout de Natalia, qui font de grands allers-retours entre l'estrade centrale et le reste du plateau. Personnellement, ces choix de mise en scène ne m'ont pas convaincue. En effet, Un mois à la campagne est une pièce où les personnages parlent beaucoup, et on regarde des gens discuter pendant 2h30, ce qui n'est pas très intéressant. Je pense que cette pièce aurait mérité un jeu de lumière plus complexe et stimulant pour le spectateur. Le seul moment qui brise la monotonie est l'orage, qui pour le coup est très réussi et intense. Certains bruits de fond, comme le chant des oiseaux ou l'aboiement du chien, étaient intéressants et contribuaient à l'atmosphère de la pièce. Le choix des opéras de Pauline Viardot est un agréable clin d'œil à l'auteur et à la période, car elle et Tourgueniev étaient très amis. Cela dit, les sortes de bruitages dramatiques lors des scènes de dispute, comme la trahison de Natalia, ne sont pas nécessaires et créent une tension de manière artificielle qui éclipse le jeu des acteurs. D'ailleurs, l'interprétation des acteurs ne m'a pas convaincue non plus. Les voix étaient pour la plupart trop projetées, peu intimes, et l'intonation très stéréotypée manquait de sobriété. Ce manque de sobriété dans l'énonciation du texte et la diction peu naturelle font perdre leur sincérité au personnage. Les seules interprétations qui m'ont plu étaient celles de Stéphane Facco, qui jouait Rakitin, et de Daniel Sanpedro, le docteur, car elles étaient plus réalistes. Les déplacements exagérés des personnages ne m'ont pas plu non plus. Ils marchent en même temps qu'ils parlent, mais leurs mouvements ne sont pas motivés par quelque chose, et ça m'a fatigué. Les personnages perdent leur crédibilité, car ils sont constamment en train de tourner en rond. Le théâtre est un art qui a tendance à tout intellectualiser et à se réfugier dans la parole, mais je pense qu'il faut préserver un peu de spontanéité au risque d'ennuyer le spectateur. Dans cette pièce, les effets de l'ennui et du passage du temps sont si réussis qu'ils se transmettent à celui qui la regarde. J'ai trouvé le temps long et je n'ai pas cru à l'histoire qui se déroulait devant moi, ce qui est très dommage.
Nolan Pierre-Antoine, 214 du lycée Victor Hugo. Un mois à la campagne débarque sur la scène nationale d'Albi et enchante les spectateurs avec sa fraîcheur et sa poésie. La comédie romantique interprétée par les talentueux comédiens de la troupe de Clermont-Hervieux-Léger vous plonge dans une ambiance intime où les émotions se bousculent et les désirs se relèvent. L'histoire se déroulant dans une propriété de campagne au XIXe siècle est un véritable tour de force pour les acteurs qui, par leur performance, captivent l'attention du public à chaque instant. Les personnages se retrouvent pour passer l'été, où Natalia, l'épouse du propriétaire, tombe sous le charme d'Alexei, un jeune précepteur qui vient donner des leçons à son fils. Mais elle est également courtisée par Rakitin, un ami de longue date de la famille. À travers des dialogues subtils et nuancés, les comédiennes nous transportent dans un univers de rêve et de poésie. La mise en scène de Clermont-Hervieux-Léger est une réussite à tous les niveaux, avec un décor minimaliste qui nous permet de nous attacher plus facilement aux personnages. Les changements dans le décor sont réussis, avec une ambiance intérieure différente à celle de l'extérieur. La scénographie est remarquable, avec un jeu de lumière habile qui joue avec les sentiments des personnages, les émotions et les enjeux de chaque scène, contribuant ainsi à l'atmosphère générale de la pièce. Les paroles des personnages sont bien rapportées et les acteurs incarnent parfaitement les attentes de chaque personnage. Mention spéciale pour Natalia qui passe du rire aux larmes avec une grande intensité, captivant l'attention du public à chaque instant. Alexei, lui, est remarquable, offrant une interprétation subtile et nuancée d'un personnage qui évolue tout au long de la pièce. En résumé, cette adaptation théâtrale de Moi à la campagne est une expérience captivante et mémorable pour le public. Une ode à l'amour et à la poésie et à l'émotion à ne pas manquer.
Cyriane Dary, 5e du collège Balzac. Même si L'Enfant Océan m'a paru être une pièce de théâtre adaptée à toute la famille, le réalisme des propos et de la situation vécue par les personnages peuvent être choquants pour le très jeune public. Les 7 frères, composés de 3 paires de jumeaux, nous font vivre une vraie aventure en tentant de rejoindre coûte que coûte l'océan. Les décors rendent le spectacle authentique et grave, en particulier l'utilisation des ombres chinoises. Parfois, des projections de vidéos sont utilisées pour les actions qui peuvent être difficiles à réaliser sur scène, comme l'arrivée de l'assistante sociale en voiture et chez les Doutrelot. Ces différentes techniques de réalisation donnent une forme originale au spectacle et permettent de maintenir l'attention du spectateur. Le début de la pièce est dramatique car le plus jeune des frères, Yann, courageux et généreux, pense que les parents souhaitent se débarrasser d'eux. Il décide alors de fuir et arrive à convaincre tous ses frères que c'est la meilleure des solutions. Yann, qui est le personnage principal, n'est pas un acteur mais une marionnette qui prend vie grâce à ses frères. Cela démontre le lien fraternel et leur dépendance les uns les autres. On trouve des similitudes avec l'histoire du Petit Poucet. Premièrement, le contexte identique avec une famille en situation d'extrême pauvreté. Deuxièmement, un des personnages, le chauffeur routier, fait référence au Petit Poucet dans son récit lors de son interrogatoire par la police. Cette histoire fait donc référence à des problèmes de société qui persistent toujours aujourd'hui, tels que la pauvreté. Tantôt aidés comme lorsqu'ils sont nourris par la boulangère, tantôt maltraités comme à la fin lorsqu'ils se retrouvent enfermés dans une maison sans eau ni électricité. Leurs mésaventures nous tiennent en haleine jusqu'au bout, avec même un peu d'angoisse quant à leur avenir. Il y a une certaine forme de fatalisme quand on comprend dès le début que les choses vont mal tourner et que ça ne se passera pas bien. Mais l'issue de l'histoire pour le personnage principal donne un espoir et l'envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves.
Méline Gilles et Eva Bizot en classe de 103 du lycée Victor Hugo. Cher journal, en ce 9 février, j'ai pu assister à l'œuvre théâtrale de Clément Hervieux-Léger, grâce à laquelle j'ai pu prendre plaisir à observer le jeu des acteurs, malgré une durée de la pièce trop longue à mon goût. C'est une pièce écrite par Ivan Tourguenev, un aristocrate russe qui fait ses études en Allemagne pour ensuite revenir en Russie. La pièce fut appelée « Deux femmes, puis l'étudiant ». Finalement, il choisit un mois à la campagne, ce qui implique le point de vue du personnage Alexei. Cette pièce a été mise en scène en 2022 par Clément Hervieux-Léger et interprétée par sa troupe, la Compagnie des Petits Champs. La pièce s'intéresse à la classe des aristocrates russes qui ne savent pas comment être utiles. Ils conversent alors de salon en salon, tout comme Rakitine, où ils décident d'habiter aux côtés des serfs dans leur campagne, tout comme Arkady. C'est une pièce animée par des tourments amoureux au sein d'une famille d'aristocrates. L'amour de ces femmes rempli d'un désir inarrêtable et de liberté va faire éclater l'équilibre familial et ainsi créer une fin peu festive. C'est une pièce adaptée par le metteur en scène qui fait le choix de supprimer certains passages de la pièce, notamment des monologues de Natalia Petrovna. Mais il supprime également des personnages comme Katia et Matvei, les domestiques de maison. La pièce est divisée en 5 actes et non en scènes. C'est un récit dramatique qui donne une impression de durée, est indispensable quant à l'émergence des émotions dans l'esprit de chaque personnage. On remarque une unité de temps non respectée, puisque l'acte 1 se déroule l'après-midi, tandis que l'acte 2 se passe le lendemain, et de même pour les autres actes. Quant à notre avis personnel sur le spectacle, il est très partagé malgré nos impressions positives qui dominent toutes nos autres impressions. Du côté de la scénographie, elle a été très réfléchie. Sur la scène se trouve une estrade permettant un franchissement de palier. Néanmoins, les acteurs jouent bien souvent hors de cette zone afin de sortir du cadre et ainsi représenter à merveille l'image de cette famille qui éclate petit à petit à l'arrivée du précepteur Alexei.
En effet, plus les tensions se creusent dans la pièce, moins les acteurs jouent sur la strade, ce qui est très bien pensé. On remarque également que les poteaux lumineux installés sur les scènes extérieures sont laissés jusqu'à la fin de la pièce, afin de renfermer l'espace et ainsi de créer une prison autour de l'espace. Au sujet du décor, il est assez minimaliste, ce qui est plutôt décevant. Le spectateur n'est pas absorbé visuellement par la pièce et peut se sentir ennuyé. On pouvait presque fermer les yeux et se focaliser seulement sur les répliques des acteurs. Les changements de décor sont effectués à vue, ce qui peut être appréciable ou désagréable. On remarque simplement que c'est un théâtre réaliste, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas qu'il est théâtre. Les costumes sont variés et vagues, entre modernes et anciens, afin de respecter et représenter avec perfection l'esprit des personnages. C'est ingénieux d'avoir costumé Natalia en tenue plutôt moderne, ce personnage fougueux qui rêve de jeunesse et de fraîcheur, ou même Rakitin, en tenue des plus classiques, voire rustiques, qui reflètent parfaitement sa raideur d'aristocrate. On remarque alors, dans ce choix des costumes, un véritable souci de fidélité quant au caractère des personnages écrits par Tourguenieff, ce qui est fort appréciable. Quelques extraits de musique d'opéra pendant les transitions d'actes, mais aussi lors des scènes de révélation, afin d'intensifier les émotions. Après explication des acteurs, il s'agirait d'une musique composée par l'amour d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les deux amoureux partageaient leur passion avec autant de platonicité que Natalia et Rakitin. C'est un choix poétique du metteur en scène qui fait un lien et rend hommage avec finesse à l'histoire personnelle de l'auteur. D'autres sons sont à relever comme des bruits d'oiseaux lors des scènes extérieures, mais également de la pluie, du tonnerre, avec d'ailleurs une brise créée afin d'intensifier les effets réalistes et de sûrement dynamiser les aspects de la pièce. Du côté de l'interprétation, des personnages, on sent une réelle volonté de sincérité et de fidélité, même si on n'est pas convaincu par leur jeu d'acteur. Non pas celui de Rakitin ou du docteur, mais plutôt du côté des actrices interprétant Natalia et Vera. On remarque que clairement Clément Hervieux et Léger a voulu appuyer sur le caractère fougueux de ces femmes assoiffées de désir. Néanmoins, leur rôle était à notre goût surjoué, ce qui donnait un effet grotesque, voire immature à leurs personnages. Elles étaient toutes les deux extrêmement mobiles, surtout Natalia, ce qui ne rajoutait aucune puissance à leur rôle, mais les rendait seulement rapidement pathétiques. Leur ton était certainement tantôt monotone, tantôt déclamé. Sinon, un respect du quatrième mur est à noter du côté de l'interprétation générale. Celui-ci sépare la scène de la salle. Les spectateurs deviennent alors des voyageurs surprenants, une scène de vie et oublie ainsi qu'il se trouve au théâtre. Cela produit un bel effet de réalisme qui ne manque pas de charme. Enfin, la pièce s'achève sur une magnifique image que l'on peut interpréter comme étant la représentation de la douceur d'une jeunesse qui est l'un des thèmes principaux de la pièce. Pour résumer, Clément Hervieux-Léger s'empare avec grâce de l'œuvre du dramaturge russe et parvient à interpréter avec finesse et douceur les tourments d'une passion amoureuse.
Guyolaine Kélian, 5e-5, Collège Belzac. Critique sur l'enfant océan. Avec ma classe de 5e-5, nous sommes allés voir une pièce de théâtre intitulée L'enfant océan. Voici ce que j'ai pensé de ce spectacle. Point négatif, la pièce n'a pas duré assez longtemps pour une histoire assez jolie. Il n'y avait pas assez de lumière pour éclairer la scène. Point positif, les acteurs jouaient bien. Ils avaient bien préparé leur texte. La pièce était compréhensible, les décors étaient assez jolis. L'ensemble était triste et beau à voir, à la fois comme dans le livre.
Liam de Carvalho Bousquet. Le 16 février 2023, à la scène nationale d'Albi, nous avons plongé dans l'univers de Frédéric Sontag, qui a adapté l'œuvre de Jean-Claude Mourlevin, L'enfant océan. Les décors vidéo projetés nous plongent tout de suite dans l'univers du jeune Yann et de ses frères. Un soir, Yann surprend une dispute de ses parents lors de laquelle son père annonce sa volonté de les tuer tous les sept. Il décide alors de s'enfuir avec ses frères vers l'océan afin d'échapper à leur triste sort. Les décors modifiés tout au long du voyage aident à montrer la progression des enfants vers l'océan. Les costumes sont simples et permettent parfois de différencier les changements de personnages sur scène. Les voix enregistrées nous font accéder aux pensées intérieures des personnages, comme lors de la lecture des différents chapitres du roman. Les acteurs font ici une belle performance en jouant plusieurs rôles à la fois. Cependant, lors de certaines scènes où toute la famille est censée être réunie, le manque d'acteurs présents sur scène est alors un peu gênant. Par ailleurs, le metteur en scène a choisi de respecter les traits de personnalité des différents personnages du roman, auxquels il est assez fidèle. Cependant, on peut regretter son choix de supprimer des passages importants pour adapter le texte au théâtre, notamment l'épisode du vol des billets de train. De plus, le choix de représenter Yann par une marionnette pose parfois problème, par exemple lors de moments où le jeune garçon devrait être seul sur scène, la marionnette devant être manipulée par un acteur, elle ne peut rester seule sur scène. On aurait pu faire le choix d'une marionnette commandée à distance par des fils afin de résoudre ce problème. Malgré ces quelques petits reproches, cette adaptation du roman de Mourleva vous emportera dans un voyage vers l'océan et vous serez submergé par une vague d'empathie pour ces sept garçons.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission consacrée à l'art, la peinture, la littérature, le cinéma et le théâtre. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour parler de l'adaptation de Un mois à la campagne de Ivan Turgenev, faite par Clément Hervieux-Léger. Nous sommes en compagnie de Paul, qui est notre invité et qui a vu la pièce. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors, parlez-nous un petit peu de la pièce.
Un mois à la campagne, c'est une pièce russe qui raconte l'histoire d'une famille d'aristocrates qui vit dans la campagne. Leur paisible existence va être cependant chamboulée par la venue d'un jeune étudiant, moscovite, qui déstabilise les habitants de la maison par leurs sentiments.
Très bien. Alors, dites-nous, vous qui avez vu l'adaptation, que pouvez-vous nous dire de sa mise en scène ?
Eh bien, Clément Hervieux-Léger fait de cette adaptation une pièce bien plus moderne.
Et c'est dû à la traduction de Michel Vinavert ?
Exactement. Michel Vinavert donne une nouvelle jeunesse à la pièce, et je dirais en plus de ça que le fait que certains passages assez longs comme le monologue de Natalia soient supprimés ne gêne pas la compréhension de la pièce du tout.
Oui, et même le fait que certains passages soient plus courts donne du rythme à la pièce.
C'est ça. Le metteur en scène a réussi à simplifier l'histoire au spectateur, mais il reste quand même très proche de l'œuvre originale de Turgenev.
Et justement, vous dites que l'histoire est simplifiée. J'ai entendu que le décor aussi était très simpliste.
Alors oui, le metteur en scène a fait le choix d'un décor assez classique. C'est une simple estrade en bois au centre de la scène. Mais justement, je trouve ce choix très intelligent car il permet entre les actes de passer d'un lieu à un autre en changeant seulement quelques détails comme des chaises, des meubles ou en mettant des lampadaires.
Mais vous ne pensez pas que ça peut perdre le spectateur d'avoir toujours le même décor, très simple? Il ne peut plus savoir où sont les personnages et être complètement perdu.
Justement, c'est là que la mise en scène est forte, car ce décor minimaliste permet aux spectateurs de laisser leur imagination faire le reste. Les petits détails sont certes négligés, mais quelques éléments sont donnés pour nous faire comprendre que l'histoire a lieu maintenant dans un jardin et plus dans un salon. Ces petits détails, ce sont des sons divers comme le bruit d'une pendule ou les bruits d'animaux. Ceci donne une ambiance et sans y faire attention, le personnage comprend alors qu'il est par exemple en intérieur ou est plus dehors.
Oui, tout donc que le metteur en scène utilise d'autres outils comme les sons et qui lui servent de décor.
Exactement. Et puis aussi, il y a les acteurs qui portent des vêtements différents en fonction du lieu. Leurs mouvements et attitudes sont bien différents d'un lieu à un autre.
Justement, nous y venons. Aux acteurs, qu'avez-vous pensé de son choix de distribution ?
Les acteurs sont juste excellents. Ils interprètent chacun leur personnage avec une légère touche d'humour, ce qui rend la pièce agréable. Ça a donc pour effet de nous renvoyer, à nous le spectateur, un mélange de tragique et de grotesque.
Et alors, qu'avez-vous pensé de leur jeu ?
Eh bien, j'ai remarqué une différence entre le jeu des femmes et des hommes. Les personnages féminins ont des rôles où leurs personnages expriment leurs sentiments avec beaucoup plus d'entrain, de gestes et plus de force. Contrairement aux hommes qui sont plus calmes et laissent moins leurs émotions les envahir. Les femmes ont un jeu plus exagéré que les hommes qui ont un jeu, eux, plus tempéré.
C'est dû au fait que les femmes dans cette pièce sont les héroïnes et les personnages qui font alimenter la pièce ?
Oui, on peut prendre comme exemple le personnage de Natalia, qui est une femme forte, mais qui s'ennuie dans son quotidien et qui un jour va tomber follement amoureuse de l'étudiant. Seulement, elle est bloquée entre ses émotions et sa vie de famille. Quant à Vera, la pupille de Natalia, eh bien, elle tombe elle aussi amoureuse du même homme. Cependant, pour elle, c'est un premier amour et elle ne sait pas comment réagir face à ses émotions qui la bousculent.
Dans le choix des acteurs, on peut voir que certaines n'ont pas le même âge que leur personnage. Vous parliez justement de Vera, qui a 17 ans dans la pièce. L'actrice en aurait en réalité 32.
C'est vrai, oui. Juliette Léger, qui joue le personnage de Vera, a 32 ans. Mais je dirais que ça ne se voit même pas. Et si on regarde bien, aucun acteur n'a le âge de son personnage. Hein. Et ce n'est même pas grave. Le comédien prend l'âge de son personnage et le devient. Alors, la question de l'âge ne rentre plus en compte.
Alors, pour vous, il est préférable de prendre des acteurs qui n'ont soit pas le même âge que leur personnage, mais les incarnent quand même très bien.
Ah mais tout à fait, hein. Le choix des acteurs est à la fois dû à leur jeu d'acteur, mais reste quand même réaliste, et c'est parfait. Et pour la pièce, je dirais que c'est réussi.
Maintenant, j'aimerais savoir votre avis personnel sur la pièce. Quelles ont été vos premières impressions, à vous, personnellement ?
Si je devais donner un avis personnel à ce « Un mois à la campagne » de Clément Hervier-Léger, je dirais que mon premier ressenti en sortant de la salle ne fut pas le meilleur. La pièce est longue et ça parle beaucoup. Alors je pense que c'est une pièce qui s'apprécie avec le temps. Vous voyez, après quelques jours, j'ai pu y réfléchir et je n'ai pas la même approche qu'en sortant du théâtre. Et puis, les premières impressions sont assez déstabilisantes car il m'a fallu du temps pour m'adapter au décor, à la mise en scène, au jeu des acteurs. C'est déstabilisant, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Car justement, le metteur en scène réussit à mélanger les touches d'humour qui rendent le moment agréable, mais aussi de longs dialogues qui nous plongent au cœur de l'intrigue.
Alors, pour faire ressentir des émotions aux spectateurs, c'est réussi.
C'est réussi, en effet.
Alors dites-moi, à qui conseillerez-vous « Un mois à la campagne » de Clément Hervieux-Léger ?
Alors, je pourrais le conseiller à ceux qui aiment les histoires d'amour et leur tombe. À ceux qui aiment les histoires de famille et avant tout la dimension sociale qui souligne une époque en Russie.
Très bien. Pour conclure, on peut dire que la pièce est commandée par un metteur en scène qui a compris l'esprit de Tourguignev et ce qu'il voulait transmettre.
Tout à fait. C'est une génération d'aristocrates soumise à l'amour et à ses aléas.
Et puis, il est accompagné d'une belle troupe d'acteurs avec un réel esprit de groupe. On a une sublime Clémence Boué en Natalia Petrona, Stéphane Facou est un Rakitine avec beaucoup de profondeur, et puis Daniel San Pedro dans un médecin aussi machiavélique que drôle.
Tout à fait.
Pour résumer un peu tout ce qui a été dit, c'est une pièce avec soit un rythme spécial, assez lent et avec de longs dialogues. Cependant, le reste est réussi, pas pour Clément Hervieux-Léger, qui nous offre une adaptation digne de l'œuvre originale de Tourguignev. Nous pouvons donc conclure cette émission avec vous, Paul. Nous nous retrouvons toutes les semaines pour parler littérature, art, peinture, cinéma, théâtre, avec un invité différent. Merci, Paul.
Avec plaisir.
Et puis vous, les téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup à tous. Cédric, on va remercier tout ce beau petit monde pour ces propositions. Merci vraiment à tous les professeurs, les élèves, les membres de l'équipe de la scène nationale d'Albitarn pour tout ce projet. Et je crois qu'ils ont un petit cadeau pour vous accroché à un mur de votre maison. Donc je vais vous laisser avec notamment Jeanne de la scène nationale d'Albitarn pour tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour tous. On peut encore applaudir les lauréats et puis tous les participants à ce prix. C'est tout pour cette émission aujourd'hui. Merci tout le monde de nous avoir écoutés.